Bonsoir à toutes et à tous. Faut-il craindre cette nouvelle souche du coronavirus repérée un peu partout en Europe? Ce variant serait plus contagieux. Un cas détecté en France près de Tours, mais il n'est sans doute pas le seul, on va le voir. Pendant ce temps démarre la campagne de vaccination en Europe et donc en France. Première piqûre demain à Sevran et à Dijon avec le vaccin Pfizer. Priorité aux EHPAD et une machine logistique à mettre en place avec les pharmaciens notamment.
On va fixer une date de réception dans les pharmacies pour chaque EHPAD. On va se mettre d'accord sur la date de livraison parce qu'effectivement, dès que ça va arriver, dans les 4 jours, toutes les doses devront être injectées.
Au sommaire également, l'accord sur le Brexit, publié plus de 1200 pages qui encadre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. On est à J-5. Un cimetière historique à Londres menacé par le changement climatique. Et puis la vie connectée de Christine Siméon, sélection sans Covid ni polémique sur les réseaux sociaux pour apaiser notre fin d'année. Le temps de demain s'est agité, alerte au vent violent dans le Finistère et la Manche, prudence sur les côtes.
France Inter.
Présente d'abord au Royaume-Uni, puis détectée en France et désormais en Allemagne, en Espagne, en Italie et en Suède. Que sait-on de cette nouvelle souche du coronavirus plus contagieuse qui semble se répandre en Europe? Chez nous, un seul cas est aujourd'hui connu, un expatrié revenu en France le week-end dernier, asymptomatique mais testé positif. Et Véronique Julia, si la lumière s'est portée sur cet homme, c'est un simple hasard.
C'était assez inévitable. Ces derniers jours, le variant a été détecté chez plusieurs de nos voisins et dès lundi dernier, le ministre de la Santé avait admis qu'il pouvait déjà se trouver sur le sol français. Depuis une semaine, un certain nombre de plateformes de séquençage tentent même d'identifier s'il a pu circuler en France depuis le mois de novembre. Mais la découverte de ce premier cas est pour le coup totalement fortuite. L'homme, un Français résidant en Grande-Bretagne, est arrivé de Londres le 19 décembre. Le 21, pris en charge aux urgences du CHU de Tours, mais sans symptômes Covid, il a subi un test. C'est le protocole à l'hôpital pour éviter les transmissions. Et là, le test a donné un résultat non seulement positif, mais laissant supposer qu'il pouvait s'agir du variant britannique. Les tests n'ont pas tous les mêmes caractéristiques et ciblent en effet des gènes qui peuvent différer d'un fabricant à l'autre. Pour en être sûr, un séquençage du virus a été demandé, variant confirmé donc hier, mais au ministère on n'est pas étonné. Il y en aura d'autres, préviennent les experts, même si on a ici isolé le patient et tracé tous les contacts qui ont pu l'approcher. À ce stade, le variant n'inquiète pas quant à l'efficacité des vaccins en train d'être déployés. Il pourrait en revanche se révéler plus contagieux, hypothèse qui reste malgré tout à confirmer.
Véronique Julia, spécialiste santé ici à France Inter. Le début de la campagne de vaccination justement partout en Europe et donc y compris en France, c'est le temps fort de ce week-end dans la lutte contre l'épidémie. 4000 flacons sont arrivés de l'usine Pfizer en Belgique ce matin pour 19 500 doses au total. Première piqûre dans deux EHPAD dès demain à Sevran près de Paris et à Dijon. Les plus fragiles, les plus âgés, priorité de la stratégie vaccinale, une campagne qui reposera bientôt sur les pharmaciens relais pour fournir ces établissements. Comme l'explique Gilles Bonnefond, il préside l'Union syndicale des pharmaciens d'officine.
L'étape maintenant va être obtenir le consentement des patients. Ensuite, avec l'ARS et les services de santé publique France, on va fixer une date de réception dans les pharmacies pour chaque EHPAD. Et ensuite, on va se mettre d'accord sur la date de livraison, parce qu'effectivement, dès que ça va arriver, nous, on va le transférer immédiatement dans le frigo de la maison de retraite. Et il faut que dans les 4 jours, puisqu'on comptera à peu près un jour de transport, toutes les doses devront être injectées. Donc ça veut dire une attention particulière, des fiches de traçabilité, s'assurer qu'il n'y ait pas eu de rupture de la chaîne de froid, donc tout ça. Mais on a l'habitude, hein, on reçoit des produits frigo depuis très très longtemps, on a l'habitude de ces chaînes de froid, d'approvisionnement. Il y a un pharmacien responsable à chaque étape de la distribution et c'est surtout qu'il va falloir bien sûr avertir les médecins et des infirmiers et le médecin coordonnateur de l'EHPAD de l'arrivée pour que tout se mobilise pour qu'en 4 jours, tous les vaccins soient injectés.
Gilles Bonnefond de l'Union des pharmaciens d'officine, interrogé sur France Info. Ce matin, un décret paru au journal officiel a autorisé la création d'un fichier pour regrouper les données des personnes vaccinées. Mesure de sécurité, cela doit permettre de prévenir rapidement en cas d'apparition d'un effet secondaire très grave. Les conditions de conservation de ce vaccin Pfizer-BioNTech, on l'entendait, sont très particulières. Moins 80 degrés, 12 heures de transport maximum et une fois décongelé, une conservation de 5 jours entre 2 et 8 degrés. Près de 20 000 doses donc livrées pour la France, 10 000 en Italie pour commencer. L'Italie qui va mobiliser l'armée pour l'acheminement de ces vaccins. À Rome pour Inter, Antonino Gallofaro.
Elles seront distribuées par la route ou par les airs dans 300 hôpitaux à travers la péninsule. 60 véhicules et 5 avions pour les destinations les plus lointaines. Cette fois bien, toutes les routes partent de Rome. L'armée a pris en charge la distribution de ces premières 9750 doses exactement. Pour les futures doses du vaccin Pfizer-BioNTech, c'est la compagnie pharmaceutique elle-même qui sera chargée de les distribuer. Pour le reste de la campagne de vaccination, tout au long de l'année prochaine, le rôle de l'armée sera celui d'escorter et de distribuer les vaccins des autres compagnies. Et pour cela, elle a déployé les grands moyens, 11 avions, 73 hélicoptères, plus de 360 véhicules et plusieurs centaines de militaires. Dès 7h demain matin, les premières injections, la première pour une infirmière de Rome, de l'Institut Spallanzani, celui qui avait accueilli il y a un an les premiers malades de Covid en Italie. Je représente avec orgueil tout le personnel sanitaire qui, comme moi, s'est retrouvé en première ligne durant cette pandémie, comme elle l'a affirmé devant la presse. Les jours suivants, avec le corps médical, seront vaccinés les résidents des maisons de retraite et les personnes de plus de 80 ans. Rome, Antonino Gallo, Faro, France Inter.
Ce soir, le ministre suisse de la Santé reconnaît l'excès d'optimisme de son gouvernement après la première vague de l'épidémie. Une grave erreur, dit-il, qui a entraîné un déconfinement trop rapide. L'Autriche, l'Écosse et l'Irlande du Nord prennent de nouvelles mesures de restriction quand Israël doit démarrer un troisième confinement à partir de demain et pour au moins 2 semaines. En bref, la base aérienne de Nancy-Ochy en Lorraine, au cœur de plusieurs plaintes pour harcèlement. 5 militaires ou anciens militaires, 2 femmes, 3 hommes dénoncent notamment des rites d'intégration dégradants et des comportements homophobes et misogynes. L'avocat des plaignants souhaite rencontrer la ministre des Armées, Florence Parly. Plus de 1200 pages pour un accord historique à appliquer en quelques jours seulement. Le deal du Brexit sorti de l'Union européenne pour le Royaume-Uni qui doit intervenir dans la nuit de jeudi 31 à vendredi 1er janvier 2021. L'intégralité de l'accord qui va encadrer ses futures relations avec les Britanniques a été rendue publique aujourd'hui. Un véritable pavé, Jérémy Audouard, qui doit encore être approuvé par le Parlement européen.
Imaginez un document épais comme un bottin téléphonique, mais rempli de contrats et de textes de loi. Voilà à quoi ressemble le texte de l'accord post-Brexit. Il comprend 1246 pages réparties en 7 grands chapitres et des centaines d'annexes. Le document aborde dans le détail les questions de pêche, de transport, de sécurité sociale ou encore des échanges commerciaux, le tout avec des références aux lois européennes et à celles de leurs États membres. Heureusement, pas besoin de l'imprimer car il est consultable en ligne sur le site officiel du gouvernement britannique ou celui de la Commission européenne. Et si vous n'avez pas le temps d'aller dans les détails, il existe aussi des résumés relativement accessibles. En tout cas, les nuits s'annoncent courtes pour les législateurs. Les États membres de l'Union européenne vont se pencher sur l'accord à partir de lundi. Ce sera mercredi pour les députés britanniques. À Bruxelles, Jérémy Audouard pour France Inter.
Un jour d'élection présidentielle au Niger demain et présidentielle et législative aussi en Centrafrique. Scrutin là maintenu malgré la situation extrêmement tendue et confuse dans le pays. 3 casques bleus de l'ONU ont été tués. Enfin, aux États-Unis, Joe Biden met en garde contre des conséquences dévastatrices si Donald Trump ne signait pas le plan de relance de 900 milliards de dollars qu'il juge insuffisant. Il juge insuffisante l'aide versée aux familles américaines et trop importante celle réservée au projet culturel notamment, sauf qu'en l'absence de sa signature, 14 millions d'Américains pourraient être privés d'allocations chômage.
France Inter, Xavier Demani.
C'est un lieu qui, malgré les décennies de fouilles, nous réserve encore quelques surprises. Pompéi, où un thermopolium a été mis au jour. C'est une sorte de stand de restauration rapide, époque romantique. Découverte qui va permettre d'en savoir un peu plus sur les habitudes alimentaires avant l'éruption du Vésuve qui a englouti la cité il y a plus de 1900 ans. Les scientifiques ont déjà récupéré des fragments d'os de canard, des restes de poissons et d'escargots dans des pots en terre cuite. Voilà un autre lieu à préserver. Nous sommes à Londres désormais. C'est un joyau de la capitale anglaise qui est aujourd'hui menacé. Le cimetière de Highgate, 200 ans d'histoire, qui abrite notamment les sépultures de Karl Marx et George Michael. Mais le changement climatique, Richard Place, met en péril la végétation qui entoure les tombes.
Il se moque de la pluie et des pierres tombales rendues glissantes. Frank Kano les enjambe rapidement et avec habileté. Passionné par ce lieu, le chef jardinier s'approche d'un arbre dont le tronc est méchamment balafré sur toute la longueur.
Ces fissures sont causées par la sécheresse. Quand elles apparaissent sur un arbre, ça permet aux infections de rentrer. Ce frêne lutte actuellement pour survivre.
La nature et les morts cohabitaient paisiblement jusqu'ici, mais le réchauffement climatique est venu s'en mêler. Des températures plus élevées, les champignons se développent. des pluies plus denses et le sol argileux glisse dangereusement. Alors les nombreux amoureux de ce lieu hors du temps se mobilisent. Un concours international est lancé pour trouver la perle rare, l'architecte paysagiste qui saura comment garder cet écrin tout en l'adaptant aux nouveaux défis climatiques. Yann Dungavel est le directeur général du cimetière.
C'est un gros changement culturel pour nous. On passe de « laissons la nature faire ce qu'elle veut » à « prenons-la en main ». Nous voulons transmettre ce cimetière à la prochaine génération et qu'il ressemble à ça.
D'un grand geste de la main, il désigne cette étendue pentue où s'en mêlent les racines et les pierres tombales. Les épitaphes se recouvrent de lierre, ce que 100 000 visiteurs viennent découvrir chaque année. Londres, Richard Place, France Inter.
Le classement actualisé du Vendée Globe, Yannick Bestaven mène toujours la course juste devant Charlie Dalin, malgré une météo plus que capricieuse. Et puis en football, le FC Nantes annonce l'arrivée de Raymond Domenech au poste d'entraîneur jusqu'à la fin de la saison. Confirmation d'une information qui avait déjà fuité. Raymond Domenech ne s'est pas occupé de joueurs depuis 2010 et le fiasco de la Coupe du Monde et de l'équipe de France de foot. Il va désormais tenter de sortir les Nantais de l'ornière. Le FC Nantes est 16e au classement de Ligue 1. 19h11, terminons ce journal avec votre vie connectée. Christine Siméon, bonsoir.
Bonsoir, mon cher Xavier.
Christine, cette semaine, vous nous offrez un peu de douceur avec une sélection de comptes Instagram et de médias en ligne sans Covid ni polémique, c'est à lire sur franceinter.fr. L'un d'entre eux est une newsletter qui sort tous les 15 jours le dimanche soir.
Ce soir, je vous parle de l'intimiste. Ce n'est pas pour une soirée aux chandelles, mais pour sa façon de regarder l'actualité et le monde, avec un peu de distance, de perspective et de poésie. Sandrine Tolotti a créé l'Intimiste en mars 2019 et elle ne pensait pas que ses contenus soient si pertinents face à la tourmente de 2020.
On a aussi créé ce média pour proposer un lieu de répit par rapport à l'actualité, mais qui ne soit pas un lieu de repli. C'est pour ça que c'est un média qui porte une attention particulière à ce qui se passe ailleurs, à l'étranger, au mode de vie des autres. C'est pas parce qu'on ne s'intéresse pas à l'actualité qu'on ne s'intéresse pas au monde.
Effectivement, l'Intimiste, Christine, lettre d'informations apaisées, donc quelles actualités peut-on y lire ?
Ce sont des informations apparemment pêchées dans la vie quotidienne. Il s'agit de partir du banal pour y déceler ce qu'il peut y avoir d'universel. C'est donc une visite auprès des astrologues de Bénarès avec une anthropologue. Début avril, l'Intimiste nous racontait l'histoire du lit pendant que nous étions tous en séance de fitness sur YouTube et en spécial sur France Inter. Aujourd'hui, Xavier, je vous vois masqué, mais est-ce que vous me souriez ? En fait, je n'en sais plus rien. Mais l'Intimiste me console en me racontant l'histoire du sourire.
Le sourire tel que nous le concevons aujourd'hui remonte au XVIIIe siècle et pas avant. Et encore au XVIIIe siècle, il a été accepté comme tel pendant quelques décennies, mais ensuite a disparu de nouveau de la circulation. Donc ce sourire qui nous manque tant aujourd'hui derrière nos masques, en fait, il est relativement récent. C'est une petite histoire et en même temps, elle raconte la grande histoire de notre rapport aux autres, de la manière dont on est en relation avec les autres au jour le jour et au quotidien.
Dans chaque newsletter, outre des reportages, des témoignages, il y a toujours aussi un poème ou un extrait de roman et un portfolio photo. Ce sont des journalistes professionnels qui le nourrissent de manière bénévole. Cela s'appelle un engagement, donc. L'Intimiste construit patiemment une communauté de lecteurs et de lectrices. Peut-être qu'un jour, nous lui accorderons assez de valeur pour accepter de le financer, quoi qu'il en coûte.
Christine Siméon, merci. Et même masqué, c'est promis, le temps.
La météo avec les œufs de Loué. Par tous les temps, les œufs de Loué sont pondus par des poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Un risque d'avalanche élevé ce week-end dans les Alpes et les Pyrénées. Attention si vous êtes en montagne, prudence aussi dans le Finistère et la Manche. Alerte météo à cause des vents violents. Jean-Michel Golinski.
Une journée tempétueuse en perspective. Demain, les Anglais vont nous faire partager leur plus forte et leur rafale de vent très puissante. C'est par la Manche que ce temps agité va arriver dans la nuit. Le vent va commencer à pointer vers 100 km/h dans les terres, jusqu'à 130 en bord de mer, le tout s'accompagnant de pluies soutenues. En raison du vent fort, certains départements les plus septentrionaux sont placés en en vigilance orange. Demain en journée, cette ambiance très mouvementée, fortement pluvieuse et ventée, va gagner vers le sud et vers l'est, donnant de la neige à basse hauteur, notamment dans le Grand Est. Neige plus abondante en fin de journée à partir de 800 mètres sur le Limousin, puis dans la nuit de dimanche à lundi sur l'Auvergne et sur les Alpes. Demain, après le coup de tabac matinal, le nord de la Loire va progressivement retrouver un temps plus calme et les régions les plus méridionales ne verront arriver la pluie en plaine et la neige en montagne qu'en toute fin de journée, dans des températures de 3 à 7 degrés en début de journée près de la Manche et de la Méditerranée, mais jusqu'à moins 2 ailleurs.
Jean-Michel Golinski, Météo France, gardez la radio allumée dans un instant. François Truffaut au menu de l'humeur vagabonde.